France Culture.
Bienvenue à tous dans les Midi de Culture à 13h. Je recevrai Marie-Aude et Constance Muraille pour parler de leur roman paru à l'École des loisirs Francoeur, à nous la vie d'artiste. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture. Bonjour Sophie-Catherine Gallet.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. L'Institut Lumière à Lyon propose depuis hier et jusqu'à début avril une rétrospective des films de Yannick Bellon. Réalisatrice de documentaires comme de fiction, celle qui a commencé sa carrière en 1948 et a connu le succès notamment dans les années 70, a pourtant été quelque peu oublié depuis. La redécouverte de Yannick Bellon, c'est notre dossier du Point Culture du jour. Aurore Renaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne du cinéma et directrice de l'IECA et vous travaillez donc notamment sur la figure et l'œuvre de Yannick Bellon. Alors il faut sans doute rappeler tout de suite, resituer qui était cette réalisatrice. Alors elle a commencé sa carrière au moment où se construisait la Nouvelle Vague, mais est-ce qu'on peut pour autant l'associer finalement à ce mouvement ?
Ah non, pas du tout. Et puis c'est bien, il n'y a pas que la Nouvelle Vague en France, même si les historiens du cinéma se sont principalement souvenus de la Nouvelle Vague quand ils ont écrit l'histoire du cinéma. Mais non, comme beaucoup d'autres cinéastes dont il est important de reparler aujourd'hui et de redécouvrir, elle ne fait pas partie de la Nouvelle Vague, même si la chronologie pourrait effectivement la rattacher à ce courant-là. Mais elle a commencé bien avant, hein, parce que quand on regarde son premier court-métrage, Goémon 1948, qui est un film magnifique, qui a eu un prix à Venise, qui a beaucoup lancé sa carrière, ensuite elle a fait beaucoup de documentaires, c'est des choses qui n'étaient pas du tout dans la chronologie de la Nouvelle Vague.
Et quand on regarde son œuvre, justement, on constate effectivement des allers-retours constants entre la fiction, le documentaire. Il y a aussi, par exemple, un film assez inouï autour de Colette dans son appartement. Alors, est-ce que ces deux genres se nourrissent l'un l'autre dans son cinéma, dans l'esthétique qu'elle crée ? Comment cerner finalement son univers visuel ?
Absolument, mais c'est très intéressant de voir qu'elle ne s'est jamais cantonnée à un format et un genre. Elle a fait des courts-métrages, elle a fait beaucoup de documentaires avant d'arriver au long-métrage. Et elle a réussi, mais avec beaucoup de difficultés, à en faire 8 sur 20 années. Mais pendant tout ce temps-là aussi, elle a eu d'autres projets, des projets notamment à la télévision. Elle a fait un film avec Chris Marker, elle avait un projet sur Lévi Strauss. Enfin, c'est vraiment... Moi, je pense qu'on peut dire que c'est une très grande intellectuelle de la seconde partie du XXe siècle. Et il ne faudrait pas la cantonner qu'à ses longs métrages, même si alors, on la connaît toujours trop peu aujourd'hui. Mais quand on la connaît, c'est surtout sur ses longs métrages, notamment considérés féministes, qu'elle est reconnue aujourd'hui.
Oui, justement, par rapport à cette question du féminisme, donc elle a été assignée un peu à une image de cinéaste féministe dès son deuxième long métrage, La femme de Jean, qu'elle réalise en 1974. Alors, est-ce que c'est une image à laquelle elle s'identifiait ? Est-ce qu'elle revendiquait cette position féministe ?
Alors, c'est très intéressant parce qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Pour une femme réalisatrice qui arrive avec difficulté à faire des longs métrages dans les années 70, évidemment, on va lui poser la question du féminisme. Mais moi, ce que j'identifie chez Yannick Bellon, c'est une forme de féminisme non militant, parce que dans les années 70, ce qui est, même si c'est pas forcément très vu, parce que ça, c'est pas trop diffusé en salle, mais les films militants, Rossopoulos, évidemment Delphine Seyrig, tout ce cinéma-là, elle le met un peu à distance, comme d'autres femmes réalisatrices d'ailleurs. J'avais travaillé aussi sur Nina Companès, et c'était la même chose. À chaque fois qu'on leur posait la question, elles disaient non, pas du tout, parce qu'elles avaient aussi un peu peur d'être mises dans une étiquette, et on les comprend bien. Elles ne voulaient pas faire que des films pour les femmes, elles ne voulaient pas faire que des films sur les femmes, et donc pour elles, c'était considéré en partie comme un peu réducteur de le voir comme ça. Mais les choses changent, parce que La femme de Jean dont vous parlez, qui est un film magnifique sur une femme qui est obligée de divorcer parce que son mari la quitte et qui va retrouver progressivement une autonomie d'abord économique, professionnelle, puis émotionnelle. Après, elle fait, quelques années plus tard, elle fait L'amour violé, sur la question du viol et dans tout ce mouvement de reconnaissance, de pénalisation aussi du viol pour les agresseurs. Là, effectivement, quand le film sort en 78, elle se revendique un peu plus comme féministe. Parce que le sujet aussi le nécessite.
Ouais. Et justement, dans ce que vous dites, là, par rapport à ce film, L'amour violé, la notion de justice qui est abordée, la nécessité de porter plainte, il y a un écho qui est assez évident avec notre époque et ses questionnements. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une cinéaste avant-gardiste ?
Oui, elle a toujours un regard complètement en avant sur son époque. D'ailleurs, La femme de Jean, c'est devenu presque un synonyme de ces femmes qui, à l'époque, arrivaient à s'émanciper de ce statut marital. Mais complètement, quand elle fait L'amour nu en 1981 avec Marlène Jobert sur la question du cancer du sein, sur comment ça ostracisait aussi les femmes d'être malades, ou même quand elle fait La triche en 1984 sur un commissaire joué par Victor Lanoux, bisexuel. Même peut-être sans doute que cette manière qu'elle a d'être un peu trop en avance sur son temps, des fois, dérange. Mais bon, c'est ça aussi d'avoir un regard sur son époque et de faire avancer les choses. Mmh. Mais quand elle fait son dernier long métrage, ça a été d'ailleurs terrible, ça a été un échec, mais qui est pas lié à la qualité du film. Tous ses longs métrages sont des films magnifiques, mais en 92, quand elle fait L'Affût, c'est un film qui est lié à sa volonté de parler des étangs de la Dombe et des débuts de l'écologie, l'opposition qu'il peut y avoir entre les chasseurs, les bons chasseurs, les mauvais chasseurs et ceux qui veulent préserver la nature. Le film était complètement à l'origine des mouvements. On est au tout début même des mouvements écologiques en politique. Et après, effectivement, en 92, quand le film a été un échec, elle a plus réussi à monter un film de fiction, mais elle n'a cessé tout au long de sa vie d'avoir des projets. D'ailleurs, elle est décédée très très vieille. Je pense que ça l'animait beaucoup, ça lui donnait beaucoup de force d'avoir toujours l'envie de faire des films, notamment sur son époque, mais pas que.
Alors, malgré ces thèmes parfois difficiles, parfois liés à des parcours féminins, des enjeux de société, comme vous venez de le dire, il y a aussi une grande poésie qui se dégage de son œuvre. Alors, comment raconter justement visuellement, comment est-ce qu'on pourrait donner à voir aux auditeurs un extrait du cinéma de Yannick Bellon?
Pour se donner une bonne idée du style de Yannick Bellon, son premier long métrage, Quelque part quelqu'un, fait un peu la synthèse de cet univers visuel qui est à la fois extrêmement poétique, parce qu'il ne faudrait effectivement pas le réduire à des sujets et des critiques assez méchants, qui étaient souvent d'ailleurs des hommes à l'époque, disaient de manière extrêmement péjorative que c'était des films à thèse, et ça l'énervait beaucoup. Il y a des entretiens où elle dit mais tous les films ont un sujet, enfin c'est pas du tout un gros mot que de dire qu'on défend une idée, mais il y avait bien sûr pas simplement que cette idée de défendre quelque chose, elle avait un univers visuel. Il faut rappeler aussi qu'elle vient du montage, et on peut parler de poésie du montage avec des destins qui se croisent, qui s'entremêlent, un regard toujours très beau sur pas simplement les humains mais sur la ville. C'est quelqu'un qui a beaucoup filmé Paris. Elle a d'ailleurs, elle est partie ensuite pour L'Amour Violet tourner dans les environs de Grenoble. Et toujours insérer l'humain dans un décor beaucoup plus grand que lui. Et même en télévision, elle est partie faire des films à Los Angeles, à Venise. Donc même, je pense que c'est aussi ça. Elle a un regard quasi d'anthropologue. De filmer l'humain dans son environnement avec beaucoup de poésie.
Ouais. Alors, c'est une réalisatrice qui a donc connu un certain succès quand même de son vivant, surtout dans les années 70. Ses films faisaient quand même des entrées. Alors, comment expliquer que l'histoire du cinéma ne l'ait pas plus retenue? Est-ce que c'est parce qu'elle était au fond un peu inclassable, qu'elle n'appartenait pas vraiment à un mouvement en particulier? Comment vous le comprenez?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un réseau de facteurs qui explicitent ça. Je pense que c'est lié à l'écriture de l'histoire du cinéma. Qui a écrit l'histoire du cinéma? Qui l'écrit aujourd'hui? Et qui, de quoi se souviennent-ils? Mais effectivement, quand on voit Yannick Bellon, c'est incroyable. C'est l'une des premières femmes réalisatrices qui a fait presque 2 millions d'entrées en salle. L'Amour Violet, c'est 1 600 000 entrées. C'est incroyable. Donc, il y a vraiment un succès public. Oui, elle est un peu inclassable, mais comme l'étaient un peu toutes ces réalisatrices de l'époque, parce que c'était pas évident. Moi, je pense que ça, c'est lié aussi, de toute façon, c'est tout le temps lié à l'accessibilité des films. Tant que les films ne sont pas visibles, disponibles, restaurés, eh bien, ils ne peuvent pas retourner dans le circuit de l'exploitation. Mmh. Donc là, il faut vraiment souligner le travail important de son ayant droit, Éric Leroy, qui fait beaucoup pour la revisibilisation technique, physique de ces films, en les faisant restaurer. Et maintenant, à partir du moment où on peut voir les films, ils vont pouvoir être revus en salle. C'est pour ça d'ailleurs que là, il y a ce très bel hommage que lui rend l'Institut Lumière en février et en mars. Mais il faut espérer qu'il y en ait d'autres. Mmh. Et à la Cinémathèque française, c'était son centenaire l'année dernière. Il y a vraiment des choses à faire dans les années à venir.
Merci beaucoup, Aurore Renaud.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité, Sophie Catherine, un concert prévu dans la cathédrale de Metz crée la polémique.
Oui, le chanteur japonais Keiji Haino, figure avant-gardiste de la scène contemporaine, devait se produire le 14 mars prochain au sein de la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Mais ces derniers jours, des internautes et des fidèles se sont mobilisés pour demander au diocèse son annulation au motif que cette musique n'avait rien à faire dans un lieu consacré. Face à ces pressions, le centre Pompidou-Metz, à l'origine de l'événement, a décidé de le déplacer dans son propre bâtiment.
Archéologie à présent, une tombe royale mise au jour en Égypte.
Et c'est la première fois qu'une tombe royale est découverte par des archéologues depuis celle de Toutankhamon en 1922. Située à Louxor, il s'agit de la tombe du pharaon Toutmosis II, ayant vécu il y a plus de 3500 ans. Le ministre des Antiquités égyptiennes a indiqué qu'il s'agissait de l'une des découvertes les plus importantes de ces dernières années.
Et pour finir, Sophie Catherine, une idée de sortie au Mans pour ce week-end.
Oui, une exposition consacrée à l'enfance en peinture vient de débuter au musée de Tessé. Ce dernier revient sur leur représentation en France de 1790 à 1850, dans un contexte de bouleversement social et historique. L'occasion de voir dialoguer entre elles des toiles de Théodore Géricault, Eugène Delacroix ou encore Jean-Auguste Dominique Ingres. Pour retrouver les horaires et les détails de l'exposition, rendez-vous sur le site du Point Culture.